La protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Voilà, 19h03, la pendule la plus rebelle des radios, c'est l'heure du Canu Info, comme tous les jours de la semaine, 19h-20h, avec l'équipe du jeudi, emmenée bien sûr par Delphine.
Bonsoir Laurent.
Et donc par tous et à toutes. Voilà, par Laurent, pour cette heure d'information jusqu'à 20h. Les sujets abordés ce soir seront dans l'ordre. On va parler un peu de Tchétchénie, d'homophobie, on va parler un peu de diplomatie entre Trump et la Corée du Nord. Nous parlerons un petit peu des Maroc et du fameux plésiosaure qui est de retour.
Oui, ça sera bref, hein, je vous rassure.
On parlera pas mal d'extrême droite. On parlera aussi de quelques profiteurs qui se battent entre eux. Ils nous volent en même temps au passage. On parlera aussi de différentes technologies plus ou moins intéressantes. On parlera d'environnement, on parlera de lutte et on terminera avec du cinéma. Voilà le programme de ce Canu Info de ce 20 avril 2017 et tout de suite je vais ouvrir en parlant un petit peu de la Tchétchénie. Alors pour faire un bilan un petit peu de ces dernières semaines autour de la purge anti-gay qui a eu lieu en Tchétchénie depuis à peu près 15 jours. 15 jours, c'est à peu près la date de l'article paru dans Novaya Gazeta, journal russe, qui a révélé les centaines d'homosexuels ou de présumés homosexuels arrêtés et enfermés dans les cellules d'une prison secrète à Argun, à l'est de la capitale, prison dont, a priori, était presque réservée hein, aux homosexuels. Alors, on les a retrouvés, on les a vus, on a entendu des témoignages. Ils ont été frappés, électrisés, on ne dit pas électrocutés, contrairement à ce que disent les articles. Hein. Électrocutés, c'est quand on est mort. Ils ont été donc électrisés, humiliés, battus, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça sur ordre, bien sûr, des autorités tchétchènes, pays progressiste s'il en est. Donc voilà, pas mal de choses sont sorties. Alors toujours selon le journal, il y aurait eu au moins 100 homosexuels arrêtés et un certain nombre balancés par leur famille, hein, puisqu'il y a eu une incitation à laver leur honneur, c'est-à-dire qu'il y a eu des exactions au sein des gens arrêtés dans les prisons, mais aussi dans les familles, ce qui a été demandé par l'État notamment, et les religieux associés à cet État réactionnaire. Alors toujours d'après Novaya Gazeta, au moins 2 personnes auraient été directement assassinées par leurs proches, et une troisième serait décédée des suites de torture. Hein, donc il y aurait eu au moins 3 morts. Et bien sûr, c'est difficile d'avoir une confirmation totale des chiffres, vu l'impossibilité d'accès des journalistes à la Tchétchénie. Mais a priori, les témoignages concordent. Alors, si on revient un petit peu sur ce qui s'est passé, de quand ça date, alors on peut dire quand ça date depuis toujours en Tchétchénie, hein, dans l'histoire récente du pays, depuis la guerre avec les Russes et l'installation d'un pouvoir autoritaire religieux et donc homophobe, il y a des exactions commises contre les homosexuels. Mais on va dire dans la phase récente, ça a démarré en décembre de l'année dernière. S'il y a eu des échos, hein, d'une prison secrète autre que celle d'Argoun, il y en aurait une autre, hein, qui serait à Tozziyurt, et qui serait gérée d'ailleurs par le chef de la police locale. Alors grosso modo, les exactions ont bien été importantes en décembre. Ensuite, ça s'est un petit peu calmé aux alentours du Nouvel An et ça aurait repris au mois de février. Et vraisemblablement, donc il y a une quinzaine de jours, au mois de mars, les premiers cadavres sont apparus. Alors cadavres, c'est pas toujours l'État directement ou les policiers qui les ont tués, mais comme je l'ai dit, il y a aussi les familles elles-mêmes qui ont assassiné leurs propres membres qui étaient soit homosexuels, soit qui étaient suspectés d'homosexualité. Voilà. Alors, en plus de tout ça, il y a eu des agressions diverses, hein, avec pas mal de guet-apens. Grosso modo, les homos sont dragués sur des réseaux sociaux, et puis voilà, on leur tend un piège, et après ils sont kidnappés, violentés. On a toutes les exactions possibles, même des fois des demandes d'argent, hein, simplement, pour pas révéler leur homosexualité. D'ailleurs, l'année dernière, Courrier International s'était fait l'écho d'une rumeur, hein, concernant un groupe de gays qui aurait été assassiné et enterré dans une fosse commune, dans un cimetière, à la sortie de Grozny, donc c'était pour 2016. Alors aujourd'hui, la Ligue LGBT russe, alors qui a déjà du mal à exister, hein, mais elle s'est autoproclamée, en fait, quelque part, soutien des Tchétchènes. Hein, on se rappelle, la Tchétchénie, c'est une sorte de satellite, hein, de la Russie, pour soutenir ces homos. Donc ils reçoivent des appels, ils estiment en moyenne entre 3 et 4 appels par jour, et ils auraient exfiltré une vingtaine d'homosexuels de la Tchétchénie. Enfin, ils ont exfiltré, c'est pas ils auraient, hein, pour le coup c'est un témoignage. Alors, du côté des autorités, les réponses sont tristes. Le porte-parole de Kadyrov, lui, il a commencé, et il a été repris d'ailleurs par Kadyrov lui-même, en disant « c'est pas possible qu'il y ait des exactions contre les gays en Tchétchénie, puisqu'il n'y a pas de gays en Tchétchénie ». Donc ça situait un petit peu le niveau de débat. D'autres proches de Ramzan Kadyrov sont impliqués, notamment dans cette prison qui est gérée par un policier. Alors bien sûr, Kadyrov ou son porte-parole ont totalement démenti. Alors on rappellera que Ramzan Kadyrov, qui est le fils de l'ancien président, qui s'appelait Akhmad Kadyrov, ancien mufti d'ailleurs de Tchétchénie. Donc il a été installé par les Russes, hein. Il tient le pays d'une main de fer, il prône un islam radical, hein, avec une islamisation générale de la société, remettre en place les coutumes islamiques tchétchènes, voilà. Grosso modo, les droits des femmes, ils sont réduits, les droits des homosexuels, inexistants. Alors en plus, il a été directement mis en cause, hein, dans différents assassinats politiques. Il est d'ailleurs interdit depuis juillet 2014 de venue dans l'Union européenne, et ils ont même gelé ses avoirs. Alors, après le démenti des autorités tchétchènes, les menaces sont arrivées, notamment contre Novaya Gazeta. Alors, ils ont demandé au journal de s'excuser, parce qu'ils ont estimé que c'était juste une provocation. C'est le ministre de l'Information, parce qu'il y a un ministre de l'Information en Tchétchénie, qui a demandé ça. Il est allé jusqu'à dire, faites attention, il y aura des gens qui seront sûrement internement plus énervés que nous et qui vont vous agresser. Bon, si vous faites rien. Voilà, c'est ce genre de menace. Faut savoir que le régime porte cette homophobie, porte aussi le redéveloppement, on va dire, la réapparition en quantité importante de crimes d'honneur, hein. Pourtant c'est condamné par la loi russe qui est censée s'appliquer, parce que dans l'islam tchétchène, il y a plus ou moins ces traditions, enfin pas plus ou moins, ces traditions assez horribles qu'on appelle crimes d'honneur et qui concernent les femmes, bon, les homos on l'a vu, qui peut concerner tout n'importe quel tchétchène. Voilà. Alors, il y a eu une mobilisation, non pas pour défendre les homosexuels, mais pour soutenir le gouvernement, hein, puisqu'il y a une manifestation à Grozny qui a été quand même suivie, puisqu'il y avait 15 000 personnes. Donc on retrouvait des personnages politiques, des personnalités religieuses, pour dire toute la haine qu'ils avaient des homosexuels et qu'il ne s'était rien passé, puisqu'ils l'ont tous répété, il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie. Voilà. Alors au niveau des réactions internationales, en dehors des communautés LGBT, il y a une réaction des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, de l'OSCE, des États-Unis et de quelques pays qui ont condamné assez mollement ces agissements. Mollement parce qu'ils n'ont rien mis en place ou presque. Alors si on peut quand même noter que l'Allemagne, la Suède, la Finlande ont collecté des fonds pour aider les et d'autres quelques pays européens donc pour aider à l'extraction, on va dire, des homosexuels tchétchènes qui voudraient venir, qui voudraient sortir du pays, venir en Europe. Il y a l'idée d'accélérer, c'est un projet, la procédure de délivrance de visa pour les homos tchétchènes. Mais bon, on sent bien qu'il y a quand même pas une énorme mobilisation de la communauté internationale pour défendre cette cause-là. Vraisemblablement, c'est pas la priorité. Voilà, c'est assez triste. Donc, on peut dire, après ces 15 jours de révélation sur ces deux prisons, ça fait pas mal penser à des camps de concentration réservés aux homos, ou à des prisons réservées aux homos, avec des disparitions, comme dans les camps de concentration de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est quand même très très inquiétant.
Alors on va parler de diplomatie, on va parler de face à face, et on va parler de Monsieur Trump face à Monsieur Kim, les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord. Alors le 8 avril dernier, un porte-parole du commandement des États-Unis d'Amérique pour le Pacifique annonce que le porte-avions USS Carl Vinson se dirige de Singapour vers la péninsule coréenne, hein, tout ça pour répondre aux provocations de la Corée du Nord. Monsieur Trump s'emballait et avait déclaré « Nous sommes en train d'envoyer une armada très puissante ». Donc on s'attendait à du lourd.
Des sous-marins, des porte-avions.
Ah, alors déjà, un hein, porte-avions, écoute, et puis c'est jamais ça, là, en porte-avions. Hein,
parce qu'il faut le protéger.
Puisqu'il est, y a des destroyers avec des lanceurs de missiles, un croiseur. Donc voilà, c'est quand même une armada. Hein, enfin, en tout cas, dans les propos de M. Trump, on s'attendait un petit peu à voir l'armée, les Marines, les GI, tout ça, envahir la Corée du Nord. Pourtant, bizarrement, ce porte-avions est... Donc ces destroyers, ce croiseur, n'étaient pas en route vers la péninsule, mais à l'opposé, vers le sud, puisque des exercices étaient prévus de longue date avec la marine australienne dans l'océan Indien. Alors, c'est marrant parce que donc on a eu une armada annoncée, promise par Monsieur Trump il y a plus de 10 jours, et qui en fait n'était pas du tout en direction de la Corée, ou des Corées plus précisément, puisqu'en fait tout ça allait carrément à l'opposé. Alors a priori, pour ce qu'on en sait, l'USS Carl Vinson et les autres machins à côté devraient approcher de la péninsule coréenne la semaine prochaine. Hein, donc c'est 2 semaines après les menaces de Monsieur Trump quand même. C'est pas mal, on prend son temps hein, quand même, on menace, mais après derrière on y va doucement. Alors évidemment, cette espèce de fausse annonce, un faux déploiement militaire, bon c'est quand même pas terrible. Ça fait a priori un peu grincer les dents certains militaires qui trouvent qu'ils passent un peu pour des crétins. Hein, c'est vrai, ça quand même, il faut le dire. Bon, on doit se douter que peut-être que certains sont l'isolement, mais pas, peut-être pas trop sur ce genre de USS Carl Vinson, ce genre de navire. Donc, j'aimerais bien savoir comment réagit le troufion qui est sur ce genre de navire quand on lui dit « Ah, au fait, il paraît qu'on va vers la Corée du Nord, mais non, regarde, on va vers l'Australie. » Enfin bon, tout ça est quand même assez ridicule de la part des États-Unis d'Amérique. Bon, il faut dire, du côté de la Corée du Nord, on a effectué un tir de missile, c'était dimanche. Du côté des armées des États-Unis d'Amérique et de la Corée du Sud, on jour promis que le tir, il est raté. Alors, toute la presse en boucle internationale raconte que le tir est raté. Mais ça, on ne le sait que de ces deux armées, des États-Unis d'Amérique et de la Corée du Sud. Hein, bon, ça serait pas le premier karaté, donc on veut bien les croire, mais enfin, il y a quand même, on sent une grosse propagande aussi pour dire que, ils sont nuls en Corée du Nord, et puis deux, que, a priori, ils ont de grosses testicules, hein, pour pouvoir répondre à la Corée du Nord. C'est quand même, excusez-moi, mais une bataille de bonhommes, hein, quand il n'y a pas du Poutine, ou du Erdogan, ou du Bachar al-Assad, on se retrouve avec du Trump, du Kim, enfin, vous voyez, un petit peu quand même, excusez-moi, hein.
Ouais, bon, enfin, en Angleterre, c'est Theresa May, et bon. Finalement,
ouais,
femme,
je trouve qu'elle, je vais dire quelque chose d'un petit peu vulgaire, mais elle les met pas sur la table, hein. Voilà. Oui, je vais le dire comme ça, si tu veux bien, parce que.
C'est pas le même style, mais bon.
Il faut pas oublier que dans tout ça, monsieur Trump est accompagné de monsieur Mike Pence, hein, qui, lui, il y va, hein, il est là pour représenter les États-Unis d'Amérique. Il est connu pour sa grande subtilité, ce monsieur. Vous aurez noté la petite ironie dans ma voix, je l'espère. Lundi, il était dans la DMZ, c'est-à-dire la zone démilitarisée entre les deux Corées, à Panmunjom, là où il était signé, hein, les accords en 53, les accords de cessez-le-feu. Je rappelle qu'il n'y a pas de paix, vous savez, avec les petites maisons bleues. Et donc, il en a remis une couche et il a déclaré « Il y a une période de patience stratégique, mais cette ère de patience stratégique est finie. » Bon, ça aussi, c'est de la propagande, hein, c'est du blabla. On attend tous et toutes de savoir exactement ce que M. Trump et ses équipes ont l'intention de faire. On parle beaucoup aussi de sanctions économiques. Le problème, c'est que M. Obama fait ça, tout le monde fait ça, en fait. Que le commerce entre la Chine et la Corée du Nord, bah, continue. Alors certes, on voit peut-être moins les grands accords internationaux. Par contre, la Chine, du petit commerce entre la frontière et la Corée du Nord, ça, ça fonctionne toujours très très bien. La Chine est censée arrêter d'acheter du charbon, par exemple, à la Corée du Nord. Vous allez me dire, mais la Corée du Nord a encore du moyen d'avoir du charbon.
Payer, ouais.
Alors, si, si, ils en ont, hein, des matières. Simplement, c'est pas la population locale qui en profite. Il faut jamais oublier ça, qu'il y a quand même des gens derrière qui se font de l'argent. Les Kim ne sont pas là juste pour le pouvoir. Il y a quand même aussi toute une catégorie de cadres qui se fait du pognon, quand même. Et donc, la Chine, pour l'instant, bon, c'est pas bien, comme d'habitude, ce qui va se passer. Donc, on en est là, quand même, hein, à sortir l'artillerie, la grande propagande. On espère quand même que M. Trump va se calmer un petit peu, parce que là, pour l'instant, bon, à la fois, c'est un petit peu ridicule, et à la fois, c'est quand même très, très inquiétant. En tout cas, il y a un autre problème diplomatique dans la région, et c'est la faute à M. Trump. Oui. Moi, je pense que c'est la nouvelle excuse à la mode. Vous pouvez dire, mais non, c'est pas ma faute, c'est Trump. Parce que de toute façon, c'est à peu près sûr qu'il ait fait la bêtise. Hein, je veux dire, on peut l'imaginer ou qu'il va la faire. Donc là, ça touche la Corée du Sud et la Chine. Le gouvernement sud-coréen cherche à savoir si les autorités chinoises, si le président Xi Jinping, président grand secrétaire chinois, a dit, comme l'a expliqué M. Trump lors d'une interview au Wall Street Journal, que la Corée a été une partie de la Chine. Alors je vous rappelle que dans cette région du monde, le territoire, il est important. La Corée du Sud a été occupée. Il y a un nationalisme, mais qui n'est pas le même que chez nous, mais qui existe bien. Mais on va retrouver les mêmes sensations, hein, au Japon et puis en Chine. Et donc ça a beaucoup choqué les Sud-Coréens que la Chine ait pu prétendre que la Corée, c'était chinois. Et donc, ben là, on aimerait savoir donc si M. Trump a bien répété les vrais propos de M. Xi Jinping. Donc là, c'est un vrai problème diplomatique en pleine affaire avec la Corée du Nord. Pour l'instant, on ne sait pas trop, mais en tout cas, M. Trump, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, a priori, il met les pieds dedans.
Alors, on va rester, du coup, avec...
Je voulais bien, excuse-moi, finir juste avec ma petite brève sur plaisir. Comme ça, comme ça après tu passes tout de suite avec l'extrême droite. Oui, je vous ai raconté, hein, mon histoire de squelette de dinosaure marin, vieux de 66 millions d'années, qui avait été retiré d'une vente aux enchères à Paris fin février. Un squelette qui avait été reconstitué à 75% avec d'autres morceaux de squelette. Il y avait de la résine qui avait été ajoutée. Ce dinosaure marin avait été estimé à 450 000 euros par la société Binoche Ngedikelo, qu'il avait mis aux enchères donc chez Drouot, dans la maison de Drouot. Il y avait une polémique médiatisée, la pièce avait été retirée des enchères et le Maroc là-dessus avait demandé le rapatriement de ce squelette au Maroc. Chose est faite, ça y est, la restitution s'est effectuée dans le cadre d'un accord entre les détenteurs du squelette, donc des gens privés, hein, des particuliers, enfin une société de particuliers. Et le Maroc, alors tout ça, ça évite des procès, ça évite des ennuis. Globalement, le Maroc va faire ce que le pays avait déclaré, c'est-à-dire qu'il va y avoir... on va donner de l'argent, hein, on va payer, on va acheter ce squelette pour qu'il puisse être amené au Maroc. Ce qui est intéressant, c'est quand même aussi... moi, je trouve la réaction un petit peu de cette équipe, et puis que ça soit à Drouot ou à Binoche Ndikelo, c'est que on dit mais que finalement ce squelette il est pas rare scientifiquement, il est pas important, c'est pas un trésor national. Mais moi je voudrais juste rappeler que c'est pas à eux de décider si ce squelette qui vient du Maroc c'est un trésor national ou pas. C'est bien au Maroc où il a été déterré, sorti de voilà, et que c'est peut-être bien finalement au Maroc de décider. Il faut jamais oublier que dans nos musées européens et particulièrement en France, on a tout un tas de pièces qui ont été volées à d'autres pays, en particulier, alors on pense tout de suite à l'Égypte. L'Égypte se bat continuellement pour récupérer un certain nombre de ces objets archéologiques, mais moi je pense plutôt à certains pays d'Afrique qui n'ont plus rien chez eux. Oui, et là c'est autre chose.
La colonisation a beaucoup piqué. Oui. Napoléon avant, donc en Égypte, il y a toute une tradition de vol de la part des Occidentaux et de la France, des antiquités, des pays dans lesquels elle s'est incrustée.
Et pour avoir une histoire, pour avoir un futur, et ben, il faut bien avoir des choses sur lesquelles s'appuyer. Et il y a les pays d'Afrique aujourd'hui qui ne peuvent pas ouvrir de musée sérieusement parce que ben, les pièces, elles sont toutes en Europe, elles sont dans nos musées en France. Et puis, c'est bien gentil de dire que tout ça n'a pas valeur scientifique. D'abord, c'est pas tout à fait vrai. Et puis ensuite, il faut rappeler que ces gens, je voulais simplement spéculer sur un objet ancien de 66 millions d'années.
Voilà, rappelons-le. Un dinosaure, un plésiosaure.
Ouais.
Oui, je voulais faire une petite rubrique sur l'extrême droite. On va commencer par la Croix-Rousse, puisque y a un petit truc qui est apparu dans les boîtes aux lettres de la Croix-Rousse. Alors, on a souvent le réflexe de dire que le climat actuel ressemble quand même pas mal aux années 30, avec la montée d'un racisme, une xénophobie assez généralisée. Alors, même si les différences avec les années 30 sont énormes et permettent pas de faire un parallèle, il y a aucun parallèle en histoire qui existe, hein. Ça se reproduit jamais exactement pareil. Mais il y a quand même des éléments qui... peuvent nous alerter, voire nous inquiéter, notamment un sursaut nationaliste et patriotique que l'on voit ressurgir, bien évidemment porté par les candidats de droite, mais aussi par des candidats de gauche. On a vu beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge portés chez les mélenchonistes et un discours patriotique important. Et étape supplémentaire est apparue dans les boîtes aux lettres de la Croix-Rousse, un petit tract qui s'intitule « Création du mouvement Les Patriotes Croix-Rousse ». Déjà, c'est pas bien parti. Donc, ce tract, il est porté par Alain Guillon, qui est un ancien UMP, ancien président du Centre national des indépendants et paysans du Rhône et de Rhône-Alpes, et par Mireille Claire, une ancienne d'Europe Écologie Les Verts, qui, je cite, ont décidé de créer un mouvement patriote de type confédéral, œuvrant sur la Croix-Rousse, etc., etc. Et leur tract dit que vous soyez de gauche, du centre, de droite, du FN ou abstentionniste régulier, venez nous rejoindre. Donc on a effectivement, et ça c'est symptomatique, moi je trouve, du début du XXe siècle, et c'est un vrai retour, cette idée de souverainisme, de patriotique, et ça transcende les couleurs politiques pour des gens qui n'ont pas de vraies idées politiques, parce que moi j'aimerais bien que Mireille Claire m'explique comment elle peut être passée dans un parti d'extrême droite, hein, puisque c'est bien un truc d'extrême droite, alors qu'elle était écolo. Alors vous me direz, il y a des écolos d'extrême droite. Il y a toujours eu un très petit mouvement, mais pas issu d'Europe Écologie Les Verts. Enfin voilà, alors faut savoir que, comme ils le disent dans leur tract, ils sont portés, leur base philosophique c'est le ciel, S-I-E-L, c'est un parti qui s'appelle Souverainisme, Identité et Liberté, qui a été raccroché très longtemps au mouvement Bleu Marine, en gros ça a été créé par le Front National pour récupérer des gens qui trouvaient que le Front National, porter les couleurs du Front National, c'était encore trop mal vu, trop diabolisé. Ils avaient monté ce ciel, parti donc souverainiste, mais raccroché au mouvement Bleu Marine, et ça faisait, c'était plus facile pour les fachos de dire moi je suis du ciel plutôt que de dire moi je suis du FN. Ça a été créé pour ça. Alors depuis, le ciel s'est séparé du FN pour des différences idéologiques et sont plutôt radicalisés vers les identitaires. Et c'est ça qui est porté par ces deux fachos que sont Alain Guillon et Mireille Claire à travers ce mouvement. Alors derrière, le petit tract qui est très très mal fait quand même, faut le dire, dans leurs associations patriotiques, ils condamnent les médias subventionnés avec vos impôts, TV, radio, journaux, hebdomadaires, journalistes. Alors je vais vous leur dire un truc, Radio Canu est financé en partie par un fonds d'État qui s'appelle le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et donc on les emmerde, ces fachos, parce que oui, on récupère de l'argent qui est prélevé sur les budgets de pub de l'audiovisuel, donc un impôt, effectivement. On rappelle que les hebdomadaires, les journaux ne sont pas subventionnés directement, mais c'est la presse qui a des aides à la diffusion, et quelle que soit la couleur politique. On rappelle que le journal d'ailleurs qui en a le plus, c'est un journal très à droite qui s'appelle Le Figaro. Donc voilà, bon, ça commence bien avec des mensonges comme ça. Et puis bon, voilà, c'est juste des fachos qui arrivent comme d'habitude, un petit peu déguisés. Et ce qui fait peur, c'est le retour de ces mots souverainisme, patriotique, nationalisme, qu'on pensait avoir relégué à l'extrême droite et qui, comme ça, réinvestissent notre environnement de tous les jours, même notre boîte aux lettres. Donc voilà, moi j'ai eu ça dans ma boîte aux lettres, une espèce de torchon. Voilà. Donc ça, c'était pour les fachos à la Croix-Rousse. On va se décaler, on va aller dans le Vieux-Lyon. Alors là, c'est plus traditionnel quand même, les fachos du Vieux-Lyon. Et c'est suite à l'article du 29 mars dernier, publié par Rue 89 Lyon, qui s'appelait « Le Vieux-Lyon ne veut pas devenir facholande ». Saison 2, alors ils avaient déjà fait un article hein, il y a peut-être un an et demi sur l'implantation de l'extrême droite, on va dire radicale, mais enfin l'extrême droite tout court dans le Vieux-Lyon. Ils ont écrit cet article le 29 mars et dès le 4 avril, en 15 jours, il y a eu pas mal d'attaques. Et notamment, l'auteur de l'article, Laurent Burlet, a retrouvé un tag sur son entrée d'immeuble. On sait où te trouver, Laurent, et signé par l'extrême droite nationaliste, puisqu'il y avait une croix celtique en dessous. Donc les menaces arrivent. Ça a été la dernière, on va dire. Entre-temps, il y en a eu d'autres, puisque les gens qui ont été interviewés dans ce reportage publié sur Rue 89 Lyon, il y avait l'horloger de Saint-Paul. Saint-Paul, c'est le bout du 5e, là où il y a une belle implantation de l'extrême droite. Et tout de suite, quelqu'un de Point d'Ancrage, c'est le salon de tatouage d'extrême droite, hein, porté par le GUD, s'est incrusté. Il est tout de suite allé voir le lendemain de la publication cet horloger en lui disant qu'il n'aurait pas dû parler à la presse. Ouais, bon, un petit moyen, un petit coup de pression quoi, mis sur ce commerçant qui est pas du tout facho. Et puis la deuxième structure un peu importante qui était citée dans l'article, qui est la MJC du Vieux-Lyon, la veille de leur assemblée générale, ils ont été envahis d'autocollants du GUD pour leur mettre à nouveau la pression. Alors c'est pas la première fois qu'ils ont de la pression, la MJC du Vieux-Lyon, mais voilà, ça montre les tentatives d'intimidation de l'extrême droite sur les quelques personnes, et ils sont pas forcément majoritaires, ceux qui osent s'exprimer dans ce quartier-là et qui disent qu'ils sont contre l'implantation de l'extrême droite dans le 5e. Voilà. Alors, on sait que le journaliste, donc Laurent Burlet, a porté plainte. Bon, on sait que la police fera sûrement pas grand-chose, malheureusement, et que ça ira pas loin, parce qu'il y aurait eu des millions de moyens, aussi bien de la part de la police que de la municipalité, de faire fermer certains locaux du GUD ou des identitaires, vu ce qui s'est passé dedans, vu les témoignages qu'on a, des choses qui se sont dites, des propos racistes, antisémites, bizarrement. Il n'y a rien qui a jamais été fait. Pourtant, des propos ont été rapportés. Il suffisait qu'il y ait un flic qui aille dans ces soirées et qui témoigne. Et puis c'était bon, c'était fermé. Sauf qu'ils ne le feront pas. Alors je vous laisse deviner pourquoi les flics n'enquêtent pas et n'attaquent pas l'extrême droite. Donc voilà. Et puis je vais repartir d'un article paru sur un site internet dont j'ai perdu le nom, qui sort pas mal d'articles hein, sur l'extrême droite, sur l'écologie, sur des choses comme ça, avec le bilan sur l'extrême droite, Marine Le Pen, le FN et on va dire le côté social de ce parti, notamment dans le cadre de l'Europe. Alors on avait déjà fait ça hein, quand elle s'était prétendue féministe, on avait remontré toutes les lois anti-femmes que le FN avait votées ou elle s'est opposée aux lois qui défendaient les femmes au niveau de l'Europe. Donc là, on va revenir sur le vote des élus du FN, notamment au niveau de l'Europe, sur leur positionnement soi-disant social et vraisemblablement plutôt antisocial. Le vote au niveau du Parlement européen, c'est facile, hein, puisqu'on a tout le détail des votes. Alors, premier constat, grosso modo, Marine Le Pen met toujours en avant la France pour dénoncer, met en avant en France pour dénoncer l'Europe, les diktats, notamment le diktat de la directive des travailleurs détachés ou des accords de libre-échange style TAFTA ou CETA. Et pourtant, on a plein de preuves comme quoi c'est juste un discours, puisque dans les faits, ils font l'inverse. Exemple, en avril 2014, c'était la précédente législature, Marine Le Pen avait choisi de s'abstenir et pas de voter contre cette fameuse directive des travailleurs détachés. Alors on sait, on imagine pourquoi en fait. On sait qu'elle investit sur ce truc. Elle attendait cette directive, elle n'a pas voulu voter contre. Pourquoi ? Parce qu'elle va se servir de cette directive pour faire son discours « Regardez, l'Europe, c'est mal ». Donc elle joue un double jeu en permanence. Donc c'était intéressant de savoir qu'elle n'a jamais voté contre cette directive des travailleurs détachés qu'elle condamne ici en France. Un double discours permanent. Autre chose, le 28 mai 2015, la Commission Commerce International, dont Marine Le Pen est un membre titulaire, se prononce sur le projet d'accord de libre-échange transatlantique, le fameux TAFTA, que Marine Le Pen dénonce en permanence en France dans ses discours. Et ben là, elle n'est même pas allée participer à la commission, ni son suppléant d'ailleurs. Du coup, elle a laissé passer le truc, alors qu'elle aurait pu s'y opposer. Voilà, une nouvelle preuve comme quoi c'est vraiment que du discours. Dans le domaine commercial, en 2016, était débattu au sein de la Commission européenne et du Conseil européen du statut de la Chine. Et, l'Europe voulait reconnaître le statut de la Chine comme une économie de marché. Ça voulait dire que ça ouvrait davantage les portes des marchés européens aux produits chinois. Alors à un moment où il y avait beaucoup de concurrence avec les produits chinois et avec le dumping social que pratique la Chine. Donc les eurodéputés votent finalement une résolution qui demande à la Commission de refuser à la Chine ce statut d'économie de marché, les élus du Front National s'abstiennent. Donc ils ne voulaient pas du tout empêcher la Chine de faire concurrence aux entreprises européennes et faire du dumping social. Alors, autre chose sur les délocalisations industrielles, qui est soi-disant un cheval de bataille du FN en France, en tout cas tel que le dit Marine Le Pen. Pourtant, en octobre dernier, suite à un scandale qui n'est pas venu trop en France, mais qui avait touché la Belgique avec la fermeture de l'usine Caterpillar. Alors, c'était aussi en même temps que la fermeture de l'usine, la tentative de fermeture de l'usine Alstom de Belfort. Le Parlement européen adopte une résolution sur la lutte contre la désindustrialisation de l'Europe. Discours qui est porté en permanence par le Front National. Et les élus députés frontistes vont voter contre, tous, sauf un, Florent Philippot. Allez comprendre pourquoi. Tous les autres ont voté contre. Donc ils étaient pour la désindustrialisation de l'Europe. Alors qu'ils tiennent le discours inverse en France. Alors, sur le secret des affaires, directive qui aurait pu permettre plus de transparence avec la protection notamment des travailleurs, là aussi, le FN s'est mis du côté des transnationales et a voté, s'est abstenu ou a voté contre. Donc pas mal, hein. Alors, on pourrait en citer comme ça des 100 et des 1000. En fait, ce qu'on remarque, c'est que malgré une rhétorique en permanence contre les attaques que les multinationales, les entreprises font contre les travailleurs, les eurodéputés du FN, grosso modo, votent que des choses qui sont contre les travailleurs, et notamment contre les syndicats qui représentent les travailleurs, qui sont malheureusement, enfin, qui sont les seuls à même de défendre les travailleurs dans le monde moderne ou même autrefois. Donc voilà. Alors suite à l'affaire de Caterpillar et d'Alstom, il y avait une série d'amendements qui avaient été proposés pour renforcer les droits des salariés. Les élus du Front National ont tous voté contre aussi. Donc voilà. Alors on pourrait revenir sur plein d'autres choses. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai discours, une vraie instrumentalisation de l'Europe. Sans l'Europe, le FN n'aurait pas pu voler l'argent, n'aurait pas pu avoir des salariés payés par l'Europe et travaillant au FN, n'aurait pas pu avoir cette fameuse directive des travailleurs détachés qui sert au FN pour dire c'est mal l'Europe, alors que au niveau de l'Europe, ils ont jamais voté contre. Voilà, et en fait, c'est juste une instrumentalisation. Ce sont des professionnels de la magouille politique, des menteurs permanents, et ils arrivent malgré tout à convaincre, et c'est ça qui est plutôt triste. Donc voilà, on constate une fois de plus que le discours social ou le discours soi-disant de défense des travailleurs n'est qu'une façade, tout ça pour gagner le pouvoir, et que le FN n'attaque pas les transnationales pour une raison simple, c'est qu'il y a des transnationales en France et qu'elles sont patriotiques et qu'elles ne sont pas internationalistes, Hein, le FN n'est pas internationaliste, le FN est patriotique. Donc s'il y a des transnationales en France, il faut défendre les transnationales en France contre les travailleurs, que ce soit des travailleurs français ou des travailleurs étrangers. Et ils ont cette tradition de toujours soutenir le capitalisme, le libéralisme, contrairement à ce qu'ils disent, et du coup les entreprises.
Alors on va.
Et c'était sur Basta, j'ai retrouvé.
Parler de toute autre chose, on va parler de petites guerres entre petits profiteurs. TF1 et M6, depuis déjà quelques temps, sont un peu fâchés contre qui ? Contre ceux qu'on va appeler les opérateurs Internet. Puisque l'idée de TF1, hein, ça c'est depuis le mois de février, c'est de faire payer ceux qui commercialisent leur chaîne via les services de câble, de satellite, hein. Vous voyez, donc ça touche SFR, ça touche Canal+, a priori Free n'a pas reçu le petit recommandé. Et puis dans cette question, évidemment, il y a Bouygues Télécom, hein, puisque je vous rappelle que le groupe TF1 c'est Bouygues, je vois que tu suis Laurent, et que Bouygues Télécom c'est facile cette fois, Bouygues. Donc évidemment, l'idée de TF1 c'est de faire payer Orange, SFR et Canal+, pour le fait que vous puissiez regarder sur une box par exemple, TF1 et M6. Évidemment, du côté des opérateurs, je vous laisse comprendre que ça passe pas aussi bien cette affaire. On sait pas bien ce que le groupe TF1 veut faire avec Bouygues Télécom. Hein, ça, on attend, c'est la petite surprise. En tout cas, ça a fait réagir Monsieur Stéphane Richard, le patron d'Orange, dont les Échos ont aujourd'hui rapporté les propos. Pour lui, c'est évidemment pas possible. Et puis, qui c'est qui va porter tout ça ? Les consommateurs. Alors évidemment, les PDG de ce genre d'entreprise aiment bien nous prendre, nous, à partie pour nous dire, regardez, il y a une multinationale, il y a un groupe, il y a un concurrent qui veut nous prendre de l'argent. Et forcément, c'est vous qui allez payer, donc rebellez-vous, quoi. Donc ça reste quand même une guerre entre eux. Il faut quand même se rendre compte, même si au final, effectivement, c'est bien nous qui pâtissons de tout ça. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, Laurent. La question, c'est effectivement, est-ce que il va falloir finalement payer pour regarder TF1? Donc ça serait pas comme Canal+, de payer pour pouvoir allumer la chaîne, mais là c'est finalement une taxe qui viendrait d'ailleurs, mais que finalement vous payeriez bien pour regarder TF1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui il y a que la télé de rattrapage, hein, qui est rémunérée par les opérateurs internet télécom. Donc TF1 essaye de récupérer de l'argent, parce que cette rémunération, pour l'instant, ça leur rapporte 10 millions d'euros de la part de CanalSat, Orange, SFR et Free, mais le groupe TF1 aimerait bien passer à 100 millions pour la diffusion de ces chaînes gratuites, hein, c'est TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI, c'est-à-dire que voilà, les opérateurs, pour vous ayez dans votre box de la télévision, bah, devraient payer au groupe TF1 et au groupe M6 une sorte de redevance, hein, si vous voulez. Bon, on parle en millions, bien évidemment, ça fait une grosse redevance. Alors, on s'énerve un petit peu du côté des opérateurs, mais on s'énerve aussi un petit peu du côté de TF1, qui, comme je vous le disais, a priori envoyé des courriers. Alors l'idée de TF1, c'est d'abord de couper, dès le 30 avril le prochain, si les négociations n'avançaient pas, la diffusion sur tout ce qui peut être ordinateur, smartphone, tablette, tout ça, la diffusion des chaînes qui sont reprises, hein, par les sites web d'SFR et ainsi de suite. Ça c'est la première idée. Donc TF1 prendrait cette décision, et la menace ultime, c'est que sur les box, les opérateurs n'aient plus TF1 et plus M6, ça soit fini, vous ayez plus, vous commenciez à deux si vous vouliez, vous ayez plus à appuyer sur le bouton 1. Alors bon, M6 est un petit peu plus discret sur la question, mais a priori chez M6 on est plutôt bien dans le pas de TF1. Il est clair que les opérateurs ne veulent pas payer. Ils estiment qu'en fait ils font une exposition. Ah ouais, à TF1 et M6.
TF1, ils ont tout à perdre aussi, quelque part, ils vont perdre des téléspectateurs.
Et ben, c'est bien ce que le PDG d'Orange signifie dans les propos rapportés par les Échos. C'est que si jamais eux représentent quand même une masse de téléspectateurs, donc de clients consommateurs pour les publicités. Rappelons-le que c'est un peu tout ça, hein. On vend du cerveau disponible pour nous vendre des boissons gazeuses. Donc là, évidemment, bah, ça se rend renvoie un petit peu la balle, puisqu'en même temps, Stéphane Richard menace aussi le groupe TF1 en rappelant que Orange achète beaucoup de publicité sur l'antenne de TF1. Donc s'ils veulent vraiment se fâcher, ils peuvent se fâcher. Mais en même temps, TF1, si Orange n'y est plus aussi, c'est quand même la plus grosse chaîne en France. C'est aussi pour Orange se couper de consommateurs potentiels.
Ils sont tous coincés dans leur système.
Ils sont coincés. C'est-à-dire que TF1 et M6 sont un peu gourmands, il faut bien le dire, veulent récupérer du pognon. Pourquoi ? Pourquoi il y a cette envie de pognon ? Parce qu'il faut se souvenir que les recettes publicitaires, elles sont en train de chuter et que même si TF1 arrive plus ou moins à stabiliser, surtout que le groupe a quand même des moyens multimédia pour faire entrer de l'argent. Reste qu'il faut trouver d'autres moyens de faire des rentrées d'argent, des nouveaux revenus. Et donc, l'idée, c'est de faire participer les opérateurs dans le, finalement, le chiffre d'affaires de TF1 et d'M6. Pour le patron de Orange, il n'est même pas possible que TF1 puisse couper. Il dit qu'il n'y croit pas. Moi, je vous propose que déjà, on attende le 30 avril, qu'on regarde ce qui se passe, et puis ensuite, on verra à l'été si TF1 et M6 ont disparu des box de certains opérateurs. Moi, j'aime bien les batailles quand même entre profiteurs capitalistes. Je trouve ça chouette.
Alors, on va parler un peu de technologie avec une info qui est sortie de la part de Mastercard, vous savez, ceux qui font des cartes de crédit ou des cartes de retrait, puisqu'ils nous annoncent que pour garantir la sécurité des transactions, ils misent sur la reconnaissance digitale. Donc ils vont intégrer une nouvelle puce à côté, enfin un capteur biométrique sur leur carte bleue, sur leur carte bancaire, à côté de la puce électronique traditionnelle, où pour payer, vous mettrez vos empreintes dessus, enfin votre doigt, ça reconnaîtra vos empreintes et ça marchera pour sécuriser les choses. Alors c'est drôle d'entendre ça de leur part, eux qui pendant des années nous ont fait croire que les cartes bancaires étaient 100% sûres. Là maintenant c'est beaucoup moins sûr et on met des empreintes, hein, bizarre. Et puis ça nous rappelle un truc, c'est que c'est une belle propagande de dire ça. Ils disent que voilà, aujourd'hui, les empreintes se développent, notamment pour démarrer les portables, etc. Et que c'est très très fiable, c'est de la biométrie, c'est super, etc. Bon, bref, on va revenir sur deux choses. D'abord, un, c'est pas fiable. Il y a des exemples, comment pirater avec des empreintes. Il suffit d'avoir une photo des doigts. Alors, ça a été fait scientifiquement, montré. Vous postez une photo sur même de moyenne qualité sur un réseau social où on voit vos mains, et qu'on lit vos empreintes, et ben c'est très facile ensuite de les copier et de les utiliser. Donc c'est pas du tout quelque chose de très fiable, contrairement à ce qu'ils disent. Et surtout, ça entraîne un truc très important, qui est une perte de l'anonymat. Alors déjà, quand vous payez avec votre carte bleue, on sait quel compte va être débité, donc les banques vous suivent, mais elles ne savent pas si c'est vous qui l'avez payé ou si vous l'avez prêté à votre copain, votre fils, votre grand-mère, etc. Donc on a quand même un minimum d'anonymat qui est très faible, mais qui reste encore. Avec les empreintes, ça disparaît totalement. Et l'idée derrière tout ça, c'est de nous faire croire que la biométrie va sauver la sécurité. Et ce qu'ils veulent, c'est nous faire accepter la biométrie dans tous les domaines de notre vie. Grâce à ça, ils sauront à tout moment qui fait quoi. Et ils pourront nous espionner totalement. Et c'est le but de tout ça. Parce que, au niveau sécurité, d'après les études qui ont été faites, un code secret qu'on mémorise seul est plus fiable que tous les autres trucs de biométrie. Il y a même la biométrie sur la lecture du fond de l'œil, où il y a déjà des astuces pour pirater. Donc voilà, c'est juste de la propagande pour nous faire croire que la biométrie, c'est la vie, mais ils veulent juste savoir ce qu'on fait à tout moment.
Je te laisse passer à l'environnement.
Ben oui, deux petites infos un petit peu courtes. La première, c'est sur la Californie. Il est arrivé un truc assez marrant le 11 mars dernier. Très beau soleil sur la Californie. Donc la Californie a beaucoup d'installations solaires. 40% de l'énergie produite ce jour-là venait du solaire. Et trop. La Californie a produit trop. Et les prix de l'électricité sont venus négatifs. C'est-à-dire que si vous preniez de l'électricité, on vous donnait de l'argent. Alors c'est pas la première fois que ça arrive, mais ça arrive dans ces cas-là, où notamment au printemps, où les foyers consomment moins d'électricité parce qu'il commence à faire chaud, et les panneaux solaires produisent au maximum, et à des moments, il y a trop d'électricité sur le marché. Donc les prix baissent, jusqu'à devenir négatif, où on vous paye pour consommer de l'électricité. Je trouve ça énorme. Et ça pose une question importante, si ça arrive chez nous, qu'est-ce qui se passe? Si ça arrive chez nous, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que en Californie, qu'est-ce qu'ils font quand ça arrive pour faire remonter le cours de l'électricité? Ils arrêtent les centrales au gaz, les centrales thermiques qui tournent. Sauf qu'en France, il n'y a rien qui tourne qu'on peut arrêter, puisqu'une centrale nucléaire, ça ne s'arrête pas. Ça se diminue à peine. Et donc, en fait, le système français, le système pro-nucléaire qui est vanté par 80% des candidats, il s'écroule de lui-même le jour où on a trop de solaire. Parce que l'électricité va devenir tellement pas chère qu'avec leur électricité chère et nucléaire, eh ben ils vont vendre à perte. C'est ce qui est en train d'arriver. Alors il y a une autre solution, hein, ça serait de stocker. C'est ce qu'on fait déjà, on stocke l'électricité, soit sous forme d'eau dans des barrages de haute montagne, notamment à Grand-Maison, soit notamment aux États-Unis, sous forme de sel, hein, c'est des sels spéciaux qui emmagasinent de la chaleur et qui la restituent après et qui refont de l'électricité, soit avec des grosses masses qu'on fait tourner, qu'on met en rotation et dont on récupère l'électricité après. Enfin, il y a plein de systèmes comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas assez développé. Et donc voilà, moi je trouvais ça très drôle qu'on arrive à faire de l'électricité plus que gratuite grâce à l'énergie solaire. Et puis pour terminer sur l'environnement, la petite info sur l'île de Sein. L'île de Sein, il y a un projet qui s'est monté, une entreprise qui s'est montée, portée par des habitants de l'île de Sein. C'est dans le Finistère, hein, l'île de Sein. Ils ont créé leur entreprise qui s'appelle IDSE. C'est Île de Sein Énergie, ça veut dire. Et ils voudraient produire de l'électricité. En fait, grosso modo, ils voudraient produire l'électricité de l'île avec du 100% renouvelable, donc il y a éolien, l'énergie de la mer et le solaire. Sauf que, pour l'instant, ils peuvent pas, parce qu'en phase 2, ils ont EDF, et notamment la mairie. La mairie de l'île de Sein, qui, c'est le maire, s'appelle Dominique Salvert, qui s'oppose à ça. Et le EDF a le monopole. Or, dans le cadre de l'Union européenne aujourd'hui, il n'y a plus de monopole. Vous pouvez aujourd'hui acheter de l'électricité écolo et pas acheter de l'électricité radioactive chez EDF. Et ben chez l'île de Sein, pour l'instant, c'est pas possible, puisque EDF est arrivé à imposer son électricité polluante qu'elle fabrique au niveau de l'île de Sein entièrement avec des générateurs diesel qui consomment 420 000 litres de fuel par an. Énorme, hein, quand même, qui produisent de l'énergie très chère et qui consomment et qui polluent et qui participent au réchauffement climatique, dont l'île sera d'ailleurs une des premières touchées en France. Donc ils ont déposé différents recours pour essayer de faire sauter ce monopole qu'EDF a à travers la distribution, l'ancien ERDF, Enerdis, pour qu'ils puissent monter leur propre entreprise autonome de production d'électricité et être autonome et surtout produire d'une renouvelable. C'est juste un petit exemple qui démontre la résistance d'une entreprise comme EDF qui est contre le renouvelable, quoi qu'ils disent. Là, on a un exemple flagrant, une île autonome, la seule production que propose EDF, c'est du gasoil. En phase 2, il y a des gens qui veulent du renouvelable et EDF s'y oppose en essayant de garder un monopole obsolète. Voilà, c'est une lutte qui s'engage devant la justice. On suivra un petit peu les choses.
Alors, on va parler cinéma. Nous avions envie de vous parler de Je danserai si je veux de Mesaloum Hamoud. C'est un film israélien. En anglais, le film a été traduit par In Between, qui est plus proche du titre original Barbara. Je ne sais pas le prononcer avec l'accent. C'est plutôt entre deux. Ouais. Voilà. Mais finalement, même en français, ça porte plutôt pas si mal son nom.
Surtout alors, par rapport au contenu du film.
Voilà. Mesaloum Hamoud, c'est une jeune arabe israélienne. Elle a 35 ans. Elle fait partie d'une nouvelle génération d'artistes et puis d'une génération arabe dont on ne parle pas beaucoup en Israël. En tout cas, qui a moins de facilité pour exister. Elle raconte que elle a eu de la chance puisque Shlomi Elkabetz, qui nous avait proposé le procès de Viviane Ansalem, film que vous avez peut-être vu, elle a accompagné pour produire ce film et ça a permis d'accélérer les demandes de subventions en Israël, parce qu'elle explique que globalement, quand on est jeune arabe israélien d'origine palestinienne, eh ben, on est un tout petit peu discriminé, quand même. Donc, ouais. Elle a la chance aussi d'avoir eu deux beaux garçons et en compagnie des Lamas, c'est-à-dire une production française aussi qui interviennent.
Et puis, il y a tous ceux qui produisent le cinéma israélien, parce qu'il y a un beau cinéma israélien.
Tout à fait.
Ouais. Et donc, on a vu qu'ils sont aussi investis dans. Il y a une fondation là. Qui aide pas mal le cinéma israélien, qui s'est donc aussi mis de ce côté arabe, on va dire, du cinéma israélien.
Alors, l'histoire c'est Leïla, Salma, Nour, trois femmes palestiniennes, arabes, qui vivent dans un appartement du quartier yéménite de Tel Aviv, en Israël. Donc, elles sont en colocation. Elles ont toute leur manière d'être. Nour est peut-être un petit peu plus différente, puisque c'est une jeune musulmane voilée, mais c'est une femme intelligente. Elle fait des études et elle est fiancée.
Par contre, elle est très rigoriste sur l'islam.
Oui, mais elle est très rigolote. Donc, non, mais je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, elle a une pratique de sa religion qui est plutôt fermée. Mais c'est une femme qui a malgré tout envie de, d'avoir une éducation, qui a envie de sourire. Qui est fiancée. On retrouve donc Salma, qui vient d'une famille chrétienne, d'un petit village pas très loin.
De Haïfa.
Oui. Qui est lesbienne et apparaît toujours un peu propre à ses parents qui veulent lui trouver
un mari,
alors qu'en fait elle est DJ et barman à Tel Aviv. Et puis il y a Layla, avocate, qui a envie, comme beaucoup de femmes à travers le monde, de rencontrer un homme avec qui elle aura une histoire, peut-être une famille qu'elle a envie d'aimer, mais elle a aussi envie de s'amuser, de baiser si elle en a envie, d'embrasser si elle en a envie. Et finalement, c'est aussi l'histoire
de boire.
Salma et Layla, elles fument, elles boivent, elles fument des joints, elles rencontrent des hommes, des femmes, elles les s'embrassent, elles s'amusent, elles font la fête, elles vivent une vie, tout ce qu'il y a de plus fêtarde, mais c'est leur vie, leur demande aussi d'indépendance. Et pourtant, toutes les trois, elles sont Layla, Salma et Nour, coincées finalement dans leur tradition de femme qu'on leur impose en Israël, mais qu'on impose aussi ailleurs. Nour, à travers la religion.
Nour qui est donc fiancée avec un mec, donc un intégriste musulman, mais qui est un gros salaud.
On va pas tout raconter.
Non, mais qui va s'en prendre plein la gueule. C'est une scène vraiment jouissive du film, hein, où il se fait humilier par ces trois femmes. C'est énorme. Elle est coincée par ce côté-là.
Salma, elle est coincée dans sa famille aussi, traditionnelle et chrétienne.
Et on se dit, d'ailleurs, c'est intelligent ce film, parce qu'on a toujours l'image que les Arabes, c'est les musulmans, et que c'est l'islam qui bloque les choses. Mais non, en fait, c'est les religions tout court. Alors, on sait que c'est les juifs, c'est la même chose, mais là, on est dans une famille arabe chrétienne. Il y a quand même des Arabes chrétiens en Israël, il y a une grosse communauté. Eh ben non, ils sont aussi homophobes à mort, et c'est pas possible. Le père accepte pas que sa fille.
Et puis on a Layla qui est avocate, donc elle a fait des études, elle est indépendante financièrement, c'est pas le problème. Mais elle se trouve aussi confrontée aux hommes qu'elle rencontre, qui finalement. Ils sont séduits par cette femme qui est absolument splendide, qui fait ce qu'elle veut, qui est indépendante. Ça attire les hommes. Mais par contre, dès qu'il faut l'épouser, ce serait bien qu'elle rentre dans le rang, qu'elle arrête de fumer, de boire et de sortir. C'est-à-dire, globalement, on veut enlever aussi sa personnalité. Et ça, pour Layla, c'est inacceptable. La cigarette, le joint sont très, très présents dans le film. Mais parce que la cigarette, je me souviens, j'ai un âge mature, si vous voulez. Et c'est pas très, très loin où j'entendais encore dire que fumer pour une femme en public, c'était un peu la putain. Ouais. Et ça, c'est en France, mais c'est dans plein d'endroits au monde. On a soit la très très vieille qui vient de la campagne et qui a le cigario à la bouche, ou la vieille clope du style la gitane maïs, ou alors on a ces femmes qui fument et qui sont pointées du doigt parce que ça se fait pas, parce que quand on est bien élevé et qu'on va se marier, c'est pas des choses qu'on fait. Donc on a des personnages qui sont très différents dans un film qui est très dynamique. On voit aussi une scène rock underground de Tel Aviv qui existe, qui est réelle. C'est une ville qui est très bizarre parce qu'elle est à la fois très moderne mais aussi très coincée. Donc il y a ces deux visages, même qui sont bien multiples, ces visages de Tel Aviv, et c'est aussi ça qu'elle nous donne à voir Messalou Mahmoud. Moi je me suis beaucoup retrouvée dans ce film à travers ces trois femmes, mais à travers les trois vraiment, parce que peut-être que moi plus jeune j'ai pu faire ce qu'elle faisait, mais on avait aussi des interdictions, on était pointé du doigt. Un homme il peut boire, il peut même montrer ses fesses. À la rigueur, c'est pas grave, c'est rigolo. Quand il s'agit des femmes, tout de suite, ça pose des problèmes. Et je trouve que Messalou Mahmoud, certes, elle pointe les difficultés dans le pays pour les femmes, mais elle nous montre un film plutôt universel où on peut toutes se retrouver dans ces personnages, dans leur situation, dans ce qui leur arrive. Mais surtout, elle nous montre des femmes qui sont débattantes et que même si elles s'en prennent un peu plein la gueule, c'est pas grave, elles continuent, elles sont là, elles sont indépendantes. Et on n'a pas dit que la liberté, c'était facile. Donc Moi, je trouve que c'est plutôt un film positif, plein d'espoir.
Ouais, même si elles ont l'air tristes, hein, quand même.
Ouais, mais pour moi, la liberté, ben ouais, des fois, elle est triste, mais au moins, t'es libre, et au moins, tu choisis ton indépendance. Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout, la phrase de fin. Mais Saloum, elle a grandi hors de la religion, dans une famille communiste. Et à la fin, moi, je me suis retrouvée dans cette phrase, parce que c'est aussi bah, mon histoire. Elle remercie l'éducation que lui a donnée sa famille, parce que grâce à cette éducation, à l'ouverture d'esprit, eh ben, elle a pu être libre et elle peut être la femme aujourd'hui qu'elle est. Et ça, c'est l'important, c'est l'éducation. Et les femmes doivent avoir accès à l'éducation, aux études, parce que quels que soient les choix de vie qu'elles font, avec ou sans religion, en tout cas, c'est elles qui font ces choix. Personne d'autre ne doit pouvoir leur imposer. Et je trouve que cette phrase est très très forte et que ça venait bien très très bien ponctuer ce film qui est vraiment à voir. Il faut savoir qu'elle a été menacée, hein, mais elle a eu une fatwa, elle est menacée de mort. Il y a des gens qui ont tenté d'interdire son film, simplement il y a suffisamment de monde en Israël pour qu'elle soit soutenue et que son film ait été largement diffusé.
Voilà, il y a eu plein de prix, voilà. C'est un vrai film politique et féministe, mais juste à travers une histoire, en fait. Il n'y a pas de discours politique, il n'y a pas de discours féministe, c'est juste les faits qui démontrent les choses, et c'est donc bien plus fort que n'importe quel discours, n'importe quel...
C'est un film qui est très puissant, je trouve. Ouais. Ouais.
Très beau film.
Voilà, vous pouvez aussi aller voir sinon L'homme aux mille visages d'Alberto Rodriguez, un film espagnol qui raconte la vie, enfin... un morceau de vie de Francisco Paisa, vous savez, cet escroc qui a monté une arnaque, il a vidé les poches de l'Espagne. C'est un film très dynamique, même qui fait 2 heures. La première heure est un petit peu difficile parce que nous avons dû apprendre des faits que nous ne connaissions pas sur cette affaire espagnole. Mais je trouve que c'est un film où le plaisir va en grandissant quand on a finalement avalé les informations. Il y a une mise en place des personnages. Et puis c'est un film aussi qui est très entourloupe, puisque par exemple, le pilote qui sert de narrateur dans le film n'existe pas. Donc même Alberto Rodriguez, finalement, joue aussi avec nous. Mais c'est une très très belle histoire et un film très plaisant.
Bah, dans quelques minutes, il y aura l'émission sur les prisons. Je voulais vous parler d'une BD sur la prison, indirectement sur la prison, qui s'appelle Face au mur. En fait, c'est Laurent Astier qui a écrit pas mal de BD génialissimes, notamment sur la prostitution en Europe, et qui sort ce Face au mur suite à des rencontres avec Jean-Claude Poteau, prisonnier, qui s'est évadé de la prison Saint-Paul à Lyon dans les années 80, qui est un grand bandit qui a fait essentiellement des attaques, des braquages à l'ancienne, et qui raconte sa vie, et qu'il a rencontré lors d'une intervention de Laurent Astier en prison sur du dessin, sur du scénarisme, et ils ont accroché, ils ont échangé, et il a construit cette BD en racontant la vie de Jean-Claude Poteau, tout ce qu'il a pu faire. Alors on découvre la prison, mais on découvre aussi ce que c'est que le grand banditisme, tout ce qu'il a pu faire. Donc c'est 25 ans de prison et c'est 15 ans de cavale, parce qu'il, pendant 15 ans, il a été libre, et puis il a été arrêté au bout de 15 ans alors qu'il avait changé de vie, parce que la justice, elle oublie pas, elle pardonne pas, et on remet en prison quelqu'un qui avait fait une croix sur sa vie. Voilà, c'est une très belle BD de Laurent Astier qui s'appelle Face au mur. Ça parle du banditisme et de la prison, mais c'est réaliste puisque c'est une histoire vraie. Et puis un petit agenda avant de laisser la place à l'autre émission sur la prison. Alors, on a parlé de la Tchétchénie en début d'émission. Il y a une mobilisation vendredi soir. On sera le 21 avril à 18h30, place de la Comédie. C'est la place qui est entre la mairie et l'opéra.
Devant l'opéra, globalement. Voilà.
Pour soutenir et défendre les droits des LGBTI partout dans le monde, et particulièrement en Tchétchénie, où là, on a vu, c'était plus des droits, mais c'était une absence de droits.
31 organisations signataires, quand même.
C'est pas mal. Sinon, grosse mobilisation symbolique alors j'espère que ce ne sera pas que symbolique, la marche des sciences. Cette marche des sciences, elle est née aux États-Unis contre Trump, hein, parce que les scientifiques en prennent plein la gueule. Ils ont eu l'idée de se mobiliser, donc dans le monde, samedi 22 avril, il y a une mobilisation des scientifiques et des gens qui soutiennent le rationalisme. C'est à l'occasion de la journée de la Terre, donc c'est contre la désinformation scientifique et contre la montée de l'irrationnel. À Lyon, ça se mobilise, il y a une manifestation qui partira à 14h de place Raspail, c'est la petite place qui est juste à côté de la fosse aux ours, qui ira jusqu'à la mairie de Lyon, passera par la mairie de Lyon et qui ensuite ira place Bellecour. Il faut se mobiliser pour défendre le rationalisme qui en a pris quand même beaucoup un coup, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, le rationalisme est pas bien bien vu en ce moment. Et puis, quelque chose de plus festif, la Grande Côte en solitaire, c'est sur les pentes de la Croix-Rousse, sur la rue de la Grande, la montée de la Grande Côte et sur le, tout ce qu'il y a autour. Un festival chaque année, ça a commencé hier, ça continue jusqu'à samedi soir, et je voulais signaler la soirée de samedi soir qui s'appelle Soirée Créer, c'est résister, avec Renaud Bistan qui
viendra. Ça, c'est du copinage. Si je te dénonce, c'est du copinage.
Renaud Bistan qui vient chanter des chansons orientées sur la politique. Si vous y allez, vous allez entendre la chanson sur Lionel Jospin qui est absolument excellente.
Oui, je vous la recommande.
Ouais, Martin Brun qui vient faire une lecture et Nadège Pugnard qui vient aussi faire une lecture. La lecture de Nadège, ça s'appelle No Border, nous sommes tous des réfugiés du capitalisme. C'est une vraie soirée politique, c'est à 20h30 et c'est sur l'amphithéâtre des Trois Gaules. Voilà, et ça doit coûter 7 ou 8 euros.
On vous laisse parce qu'il est déjà 8h, qu'il est l'heure de Papillon, c'est tout prêt. On vous dit à la semaine prochaine.
Bye bye.